Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Média.
Avec vous sur Sud Radio dans quelques instants, avec le Club Média, le club de la presse média comme tous les vendredis, les livres avec Gérard Collard et puis les débats à 11h. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Média.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles Gansman.
Bonjour Valérie.
C'est vendredi aujourd'hui et le vendredi, c'est le club de la presse média.
Vous n'êtes pas à Stockholm, Valérie.
Pardon ?
Vous n'êtes pas à Stockholm ? Ah si, on remet le prix
oui,
Nobel de la paix.
Mais non, je n'ai pas...
Je suis très déçue.
Je partirai tout de suite après l'émission. Jérémy Parère est avec nous. Bonjour, directeur de la rédaction de Télé 7 jours. Bonjour,
bonjour.
Bienvenue. Et Fabien Randam, j'ai vraiment voilà, essayé, j'ai légèrement savonné. C'est Fabien Randam. Vous êtes journaliste culture média au quotidien 20 minutes. Bonjour à vous, merci
bonjour.
D'être là. Tout à l'heure, à 11h moins le quart, c'est Gérard Collard et les livres. Donc, on fera aussi de la culture, nous. Et puis, dans notre débat, on va revenir sur la première de Spectaculaire. Si vous l'avez regardé, vous pouvez évidemment réagir, nous dire ce que vous en avez pensé. On parlera également de cette polémique autour des masques, particulièrement justement dans Le Grand Pâtissier et dans Spectaculaire, ces masques qu'on voit aussi dans le public de Cyril Hanouna, et puis toutes les news médias avec vous. La question du jour, Gilles,
la question
pas très
du
sympathique
jour.
Pour nos invités.
Non, on l'a fait en honneur de Jérémy Parère, c'est vrai que Télé 7 jours est vraiment le journal culte de la télévision, et donc on s'est demandé si maintenant vous continuez à acheter de la presse télé. Est-ce que vous en achetez toujours? Vous pouvez aller sur le site Twitter de Sud Radio. À 13%, oui, désolé Jérémy, et à 87% non, mais ils ont encore, vous avez le temps de les convaincre et ils ont encore le temps de voter sur, voilà, est-ce que vous achetez encore, vous regardez les programmes dans la
ouais,
presse papier.
Comment ça se passe la presse papier justement
Ça se passe très bien, en tout cas ouais. Pour Télé 7 jours ça se passe bien, ouais. Pour la presse télé aussi en général, c'est quand même un des segments de presse qui baisse peut-être le moins. Et donc là, c'est les tweetos qui n'achètent pas la presse télé, c'est normal, c'est un public beaucoup plus jeune, digitalisé, etc. Mais à titre personnel, pour Télé 7 jours, on vend presque 1 million d'exemplaires chaque semaine, donc la réponse est oui, en fait. On achète encore de la presse télé.
Et il y a des programmes télé la grille des programmes dans 20 minutes, tous les jours. Parce que vous savez que le New York Times a supprimé cette page qui datait, je crois, de 1939.
Ah oui ?
Et récemment, je crois qu'il y a un peu moins d'un mois, ils ont supprimé la grille des programmes télévision parce que... aux États-Unis, les gens s'intéressent, sont peut-être un peu plus sur le digital, mais bon, la presse télé a encore de beaux jours devant elle. Gilles, on va commencer avec le zapping.
Sud Radio 10h midi, Média, l'instant zapping.
C'est l'information de la nuit, un cri même dans la nuit, celui d'un fils à sa mère. La dernière otage, Sophie Petronin, a donc retrouvé le sol français et son fils, Sébastien.
Maman, laissez-moi passer. Maman.
Il a donc retrouvé sa mère. C'est reparti pour des empoignades autour de l'IVG, Valérie. Quotidien a remarqué cette députée qui a utilisé des arguments très cash contre le rallongement de l'IVG.
Allez donc sur Internet et regardez à quoi ressemble un fœtus de 14 semaines dans le ventre de sa mère. C'est un bébé. Il y a un problème ? C'est un bébé. Il peut plier les doigts. Il peut serrer le poing. Il peut sucer son pouce. Sucer son pouce. Eh oui !
Un député qui va donc se renseigner sur Internet. Et puis, évidemment, tout cela a choqué beaucoup de monde, y compris Aurore Berger de La République En Marche. Elle lui a répondu avec émotion.
Nous attendons que les femmes puissent vivre leur accès à l'avortement comme elles l'entendent, comme elles le souhaitent, et sans entraves. Les entraves continuent dans notre pays. Et c'est ce dont nous parlons ce matin. Non, Madame Bonnivard, je suis désolée. Je suis désolée quand je vous vois faire ce geste comme quoi je serais, je ne sais pas, folle de dire cela. Navrée de vous dire que oui, dans notre pays, nous avons vécu nous-mêmes parfois des entraves à l'IVG. Nous avons vécu des délais qui étaient trop longs. Nous avons vécu des médecins qui nous ont obligés à écouter des battements de cœur. Nous l'avons vécu et nous ne voulons pas que les femmes dans notre pays continuent à le vivre. Alors la réponse n'est peut-être pas idéale ou suffisante, mais ce matin, nous apportons une réponse à ces femmes.
C'était donc un moment très fort à l'Assemblée. Et puis la loi, l'article 1er, allongeant donc le délai de recours de 12 à 14 semaines, a été voté. 102 pour, 65 pour contre. Le texte va au Sénat. Valérie, je vais vous donner à nos amis aussi une recette vieille comme le monde. Alors vous mettez un homme très très à droite, hein, Yvan Rioufol. Et puis vous mettez un homme très à gauche, Laurent Geoffrin. Vous touillez bon, avec des sujets brûlants, évidemment, la police, l'islamisme, la radicalisation. Et puis bah, vous obtenez CNews.
Vous avez laissé comprendre que vous aviez toujours été en première ligne à l'islam radical. Ce n'est pas vrai. Vous vous êtes réveillé bien tard.
Je ne suis pas d'accord, c'est une calomnie.
D'autres avant
je vous enverrai tous les articles.
D'autres avant vous s'étaient réveillés au moins depuis 20 ans.
Vous comprenez
plus. Plus qu'on me taxe de choses.
Écoutez, moi je me souviens parfaitement de ce que vous avez dit.
Ça suffit.
Et donc d'autres
avant. Le mensonge suffit.
C'est pas en hurlant.
C'est un mensonge.
Ce n'est pas en hurlant.
C'est un mensonge.
Non.
Voilà. Alors, drôle ou pas drôle, hier, Jean-Luc Reichmann a eu un fou rire. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a pris un accent du Sud. Eh, peu cher. Mais qu'est-ce qu'ils sont cons ou pas?
Et voici maintenant autre chose encore. Je vous souhaite bonne chance. Je vous laisse la parole.
Alors, bon. Alors, pour les enfants de 50 ans. Bon, allez, je fais sérieux.
Ouais.
Voici un pack high-tech spécialement conçu pour eux. Un ordi bilingue, écran couleur HD.
Je te remercie. Je vais pas pouvoir terminer l'émission. Je suis désolé pour Caro qui était notre invité, envoie les doux secours.
Ouais, c'est une dédicace peut-être à nos auditeurs ou à Jean Castex.
Ou à Jean Castex peut-être, voilà, effectivement. Allez, on se retrouve dans un tout petit instant, les dernières infos médias, les débats, ce qui agite le paysage audiovisuel français. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Média.
Avec vous sur Sud Radio, avec Gilles Ganzmann, avec Jérémy Parer, directeur de la rédaction de Télé 7 jours, et Fabien Randan, journaliste culture média, au quotidien 20 minutes, comme tous les vendredis, c'est le club de la presse média, avec les événements qui ont retenu notre attention, cette polémique autour des masques en plastique qu'on peut voir sur les différents plateaux de télévision. On a une auditrice qui nous dit, oui, j'ai vu un reportage à la télévision aux 13h de France 2, qui expliquait que ces masques ne servaient pas à grand-chose. Alors, on les a vus,
des petits masques en plastique,
absolument. Il n'y a que le masque chirurgical qui protège réellement. Vous avez eu des réactions de vos lecteurs sur le sujet?
Des réactions, pas vraiment. Après, on a expliqué aussi que dans le cadre du Meilleur Pâtissier, qui a été tourné donc, à partir du mois de juin, il n'y avait pas encore eu justement ce rendu sur le fait que ces masques n'étaient en fait pas du tout efficaces, comme la visière qu'on a vue dans plusieurs aussi plusieurs émissions qui n'est pas non plus efficace. Donc, dans le cas du Meilleur Pâtissier, ils ont voulu bien faire en protégeant et leurs candidats et les pâtisseries aussi, parce qu'on ne sait jamais, un postillon, quelque chose comme ça. On sait aujourd'hui que ce n'est pas efficace.
Ouais. Et donc les prods ont répondu ou pas? Ça vous a choqué
Sur le Meilleur Pâtissier, Fabien Randan. Sur le Meilleur Pâtissier, ils sont partis effectivement en juin. On était à l'époque... des confinements, on avait envie de retrouver un semblant de normalité. Donc je pense qu'ils ont fait effectivement une bourde, ils n'ont pas pensé à mal faire exprès. Et la meilleure preuve que ça ne marche pas, ce masque, c'est qu'il y a eu 16 cas, je crois, positifs au Covid. Et il a fallu suspendre le tournage qui a repris en septembre. Voilà, donc... rien, ça s'est pas passé non sans problème quoi.
Ouais. Enfin sur la reprise, ils ont pas changé les masques. On verra que sur la diffusion, il y aura plus Mercotte, mais il y aura toujours ces fameux masques. Voilà, moi j'ai trouvé aussi, il y a eu un communiqué de presse d'M6. Désormais, il y a un bandeau qui passe sur la deuxième émission. Il y a eu ce qu'on appelle un bandeau indiquant que ce masque ne protégeait pas et que seul
dans ce cas-là, quel est l'intérêt?
Oui, je suis d'accord avec vous. Et puis, ils ont dit que c'était aussi pour protéger, en effet, comme a dit Jérémy, les gâteaux des microbes. Mais enfin, ça fait plus de 6 saisons qu'ils font des gâteaux. Donc, c'est-à-dire qu'ils étaient pleins de microbes.
Il y avait moins d'enjeux, en termes de microbes.
Il y avait moins
d'enjeux. Ils passent au four, les gâteaux.
Mais c'est vrai qu'il y a toujours cette polémique qui dure. Hein, ce matin, je voyais Axel Kahn, généticien, professeur de médecine, qui se disait choqué que dans les studios télé, radio, on ne porte pas tous le masque. Et c'est vrai que nos auditeurs aussi estiment qu'on devrait montrer l'exemple et le porter.
C'est sûr qu'il faut montrer l'exemple, il faut aussi respecter aussi la distanciation physique aussi dans les publics des émissions. C'est-à-dire que être masqué avec un masque en plastique ou un masque chirurgical, ce serait mieux, même si ce n'est pas très esthétique, évidemment, à l'antenne. Et le mieux, c'est peut-être à nouveau espacer encore les gens dans le public. On le voit de moins en moins. Ils étaient très espacés au début, un petit peu moins aujourd'hui.
Oui, Fabien, Randan.
Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer aussi le côté anxiogène que ça peut avoir de voir des gens tout le temps masqués à la télévision. Je pense qu'effectivement, quand on regarde la télévision, On a envie, alors quand on est sur une tranche info, on veut voilà, du sérieux, de la responsabilisation, donc c'est normal que les journalistes, quand ils sont sur le terrain, soient masqués. En revanche, dans une émission de divertissement, et on l'a vu un peu dans Spectaculaire, avec le public masqué, moi je trouve que ça, on passe d'un moment d'émerveillement à un plan de coupe sur le public qui est avec son masque certes transparent, mais ça casse la magie.
Ouais, un petit peu.
Ouais, et puis alors moi ce que je n'aime pas, c'est les masques, vous savez, avec les fausses bouches et tout ça, il y a beaucoup ça chez Nagui, alors moi je trouve ça assez ridicule. De ces masques-là, mais c'est vraiment très très compliqué, hein. Il n'y a que la fiction dans laquelle on ne voit plus de masques, mais c'est aussi le reflet de notre société, la télévision est le reflet de la société, donc c'est un peu compliqué, mais je ne vois pas, à part Max Singer, je ne vois pas des émissions de variété ou de divertissement où on mettrait les masques tout le temps. Vous voyez Nagui avec un masque?
Non, mais c'est vrai, la question va, oui, je ne sais pas, la question va peut-être se poser à un moment donné. La première de Spectaculaire sur France 2, vous en avez pensé quoi?
Moi j'ai bien aimé, un petit peu long.
Jérémy
Parrain. C'était un petit peu long, mais voilà, enfin, en même temps, comme beaucoup d'émissions aujourd'hui, hein, ceux qui adorent Top Chef et Koh-Lanta peuvent comprendre ce que je dis. Mais moi j'ai trouvé ça bien. Je trouve que Jean-Marc Généreux, c'était sa première vraiment à la tête d'une émission où il était seul. Il y avait ce côté Greatest Showman assumé et dans les costumes et dans les chansons, utilisé pour illustrer tous les numéros. J'ai bien aimé, j'ai moins aimé le côté où il intervenait pendant les prestations, on le voyait un petit peu de dos se tourner vers la caméra, mais globalement j'ai trouvé ça très bien, les numéros étaient très beaux.
Oui,
moi je trouve que c'est une émission qui est alors perfectible, certes, on sent que Jean-Marc Généreux se cherche encore, hein. Il faut passer du personnage que les téléspectateurs connaissaient sur TF1, très exubérant, très pile électrique, à celui un peu plus contrôlé qu'il doit être sur France Télévisions pour maintenir, présenter l'émission sur la longueur et donc ne pas être dans une énergie trop forte tout le temps, trop constante. Mais il faut noter aussi que c'est une émission qui a été faite dans des conditions très particulières, très difficiles. C'est un gros barnum. Ouais. Il a fallu faire venir des gens du monde entier dans le contexte de crise sanitaire
vous
que l'on
y avez
connaît.
Assisté, hein.
J'étais sur le tournage qui s'est réparti sur 2 jours. La plupart des prestations étaient empexées, c'est-à-dire qu'elles étaient enregistrées et présentées au public qui a assisté au tournage le mercredi soir. Et
sur un écran, en fait.
Sur un écran.
Ils n'ont rien vu, le public qui était
ils
là-bas.
Ont vu, je crois, 2 prestations en direct. Et c'est là-dessus qu'ils ils se sont basés là-dessus.
Il y avait un côté très bizarre sur les plans de coupe du public qui paraissait un peu déconnecté. Enfin, moi, je l'ai ressenti en regardant un peu déconnecté du show. Quoi.
Ben, je pense que c'est dû aux empex, justement.
Pour comprendre, puis on revient sur les masques, il vaut mieux, au final, avoir respecter les conditions sanitaires et protéger aussi le public.
Protéger le public, tout à fait. Mais
moi, j'ai trouvé qu'enlever Sébastien pour mettre Spectaculaire, c'était un peu... je vois pas ce que Spectaculaire apporte de plus. Alors, ils ont voulu faire, vous savez, de la projection sur les décors, ce système-là est plutôt esthétique, c'était vraiment joli, à part que ça noyait les numéros. Le décor, il était tellement grand que les numéros étaient tout petits, avec la même lumière, on voyait strictement rien, et je trouvais ça dommage. Et la réalisation, elle était, mais alors, catastrophique, hein, sur les numéros, il n'y avait aucune émotion. Non, mais c'est vrai, il n'y avait aucune...
Vous êtes dur.
Avant, vous trouviez qu'il y avait de l'émotion dans les numéros?
Moi, j'ai trouvé, j'ai pas tout regardé, mais par exemple, il y avait le numéro de Marie-Claude Pietragala.
Vous étiez en train de manger du saucisson.
Je vois Pietragala sur scène, je trouve ça magnifique. Il y avait le numéro de la fille sur son cerceau qui, à la fin, plonge dans l'eau, qui s'enflamme, etc. Il y avait quand même de très belles choses. Après, effectivement... on en parlait juste avant l'émission, faut pas tout ramener non plus à Patrick Sébastien, c'était une autre émission. Je pense que celle-ci s'inspire de beaucoup de choses, ça peut être un incroyable talent. Il y avait cette émission sur TF1 aussi qui s'appelait The Best, le meilleur artiste, qui reprenait un petit peu ses codes. Et c'est du spectacle, en fait. Je pense qu'on lui demande rien de plus que ça, c'est-à-dire de produire du spectacle pour le service public un samedi soir, et en ça, j'ai trouvé que c'était réussi.
Ouais. Marie-Hélène nous dit oui, c'était une très belle émission, les numéros étaient incroyables. Et un autre auditeur réagissait sur les masques en disant face à l'info, donc sur CNews, le soir, malgré la distanciation, Éric Zemmour et Marc Menant et Christine Kelly ont été isolés, parce que Éric Zemmour est lui-même visiblement positif au Covid, donc...
Il a pu l'attraper ailleurs qu'en studio.
Oui, non, mais c'est ça, mais il faut...
C'est pas ce qu'il fait de ses journées.
Ils ont fait la distanciation. De quoi vous voulez qu'on parle de Catherine Laborde, qu'on peut voir, qu'on a vu dans plusieurs émissions, elle était dans 7 à 8, on l'a vu dans C'est à vous également, très, très digne, et pour faire la promotion de son livre, du livre qu'elle a coécrit avec son mari, Fabien Randan. Vous l'avez rencontré ?
Alors moi, je ne l'ai pas rencontré. Ouais. J'ai vu le portrait qui lui a été consacré dans 7 à 8, qui est un portrait qui m'a vraiment bouleversé. Je l'ai trouvé, effectivement, comme vous l'avez dit, très digne. C'est vrai que ça fait quelque chose de voir cette femme qui fait partie de notre imaginaire collectif qu'on a vu pendant des années, qui faisait presque partie de la famille. C'est peut-être pas un peu exagéré de dire ça, mais quand même, voilà, elle faisait partie de nos habitudes et de la voir comme ça... vulnérable, fragilisé, diminué, ça faisait vraiment un pincement au cœur et, et c'est moi ce qui m'a frappé, c'était vraiment son flux de paroles parfois difficiles et en même temps il émanait quelque chose de son témoignage de très beau et de très fort, donc je trouve que le portrait était très réussi et voilà.
Elle a raison à votre avis, certains peuvent critiquer cette exposition, est-ce que on n'est pas, parfois, on ne va pas trop loin, justement.
Non, moi, je pense qu'elle a raison, parce que c'est parler Jérémy des maladies, c'est aussi justement les faire connaître, montrer la réalité de ce que c'est. Elle ne s'en cache pas, elle est très courageuse, d'ailleurs, en ça, c'est-à-dire qu'elle elle parle de ses symptômes, elle avoue même, que ce soit Anne-Sophie Lapix ou à Audrey Crespo-Mara sur 7 à 8, voilà, j'avais quelque chose en tête, et je l'ai oublié. Ouais. Donc on entendait même Audrey Crespo-Mara qui disait « Mais vous en faites pas, Catherine.
Ouais, »
Et en fait, non, je trouve ça bien, parce que cette maladie, elle n'est pas connue. Cette maladie, quand même, qui est terrible, qui mélange des symptômes d'Alzheimer et
Parkinson.
Donc je la trouve très courageuse. Je trouve ça très bien de parler, en général aussi, des maladies et de la réalité de ces maladies-là. Et sur le plateau de C'est à vous, avec son mari, elle était vraiment très émouvante. Et je pense que c'est très, très bien. Et ça fait du bien de voir aussi de la bienveillance de la part des gens qui la reçoivent. Un peu de bienveillance à la télé, c'est bien.
Moi, j'ai trouvé le mari très fort, en fait. J'ai trouvé le mari très fort parce qu'il a commencé
dans C'est à vous.
Dans C'est à vous, par expliquer que lui aussi, il était courageux. Que lui aussi, c'était un combat dans sa vie. Que lui aussi, c'était quelque chose de difficile à accepter. Et donc, je trouvais ça intéressant de ne pas voir que la vedette de la télé à qui on disait « Oh là là, quel courage !»« Oh là là, elle se bat, on l'admire beaucoup !» Et lui, qui est dans l'ombre, mais au quotidien avec la maladie, où il voit dépérir sa femme, là, il sait très bien que dans quelques années, quelques mois, cette femme ne reconnaîtra pas, ne la reconnaîtra plus.
Et il dit que c'est sa grande angoisse.
Et que c'est sa grande angoisse à elle. Et que des souvenirs s'en vont et que lui va rester tout seul avec les souvenirs. Je trouvais ça très fort de la part de C'est à vous d'amener cette autre parole, parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux on voit souvent des choses évidemment pour Catherine Laborde en lui souhaitant bonne chance, on dit courageuse, et moi quand il a dit dans C'est à vous, mais moi aussi je suis très courageux, j'ai trouvé que c'était un moment de télévision très fort et que c'était bien d'avoir aussi le témoignage de ceux qui vivent aussi avec la maladie. Je trouvais ça très 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 fort.
Voilà. Ça peut aider plein de monde en fait. Qui vivent aussi cette maladie au quotidien avec des proches et donc après c'est effectivement pas ça qui va guérir quiconque. Mais il y a quelque chose de consolatoire.
Après, c'est toujours incroyable. Moi, je me souviens du documentaire qui était passé à 22h sur TF1 sur Annie Girardot avec ses filles. Et elle ne savait plus qu'elle avait été une grande star du cinéma français. Elle ne savait plus les films qu'elle avait tournés. Elle ne savait plus reconnaître les gens. Et c'était incroyable de voir une star française comme ça.
Justement, ce sont des images, c'est des images qui marquent aussi le public. C'est-à-dire que même si on n'est pas sensibilisé à une maladie, à ce qu'elle peut engendrer, etc., ce sont des images qui marquent et qui fait qu'on peut après être sensibilisé à ça, je sais pas, faire un don pour la recherche ou en tout cas savoir reconnaître aussi les symptômes d'une telle maladie. Elle expliquait, Catherine Laborde, c'est son mari qui a été le premier justement à voir les symptômes. Et quand même on écoute aujourd'hui son message d'adieu à la météo, quand elle dit vous
m'oublierez, moi je ne vous oublierai pas, c'est vrai que ça
prend un sens particulier. C'est pour ça que je trouve ça très très bien au final d'avoir des gens suffisamment courageux pour parler de leur maladie et effectivement mettre en lumière aussi les aidants, parce que comme c'est ce qu'elle dit très bien, quand aimer devient aider, donc je pense que c'est une très bonne chose de l'avoir sur les plateaux et qu'elle ne cache pas justement cette vulnérabilité dont Fabien parlait.
Vous recevez quoi comme courrier à Télé 7 jours, enfin le courrier maintenant peut-être plutôt des mails, mais j'avais cette question qui me venait, c'est vrai que le courrier de Télé 7 jours ça reste quelque chose d'un peu
mythique.
On a des réactions justement face au programme, beaucoup de courriers papier encore, et puis après non, c'est plus des questions, c'est pourquoi les primes commencent plus tard, pourquoi vous avez mis ça à la télé. Donc on leur dit c'est pas nous, c'est la chaîne.
C'est ça,
donc en fait non, il y a
quand le retour
tout type de courrier.
Et la principale, une des grandes questions, c'est l'horaire des programmes.
Oui,
nous, on avait mené ce combat, nous, sur Sud Radio l'année dernière, avec ces programmes qui commencent rarement avant 21h05, maintenant, voire 21h05.
L'horaire des programmes et puis des questions parfois toutes bêtes de certaines personnes qui ne comprennent pas pourquoi. Par exemple, sur The Voice, ils sont habillés pareil pendant cette semaine. Donc, on est obligé de réexpliquer qu'en fait, l'émission est tournée sur une semaine et que comme le montage peut différer, ils sont habillés pareil sur les auditions à l'aveugle. C'est ce genre de questions. Voilà,
Alors, vous avez quelques scoops à chaque fois. On demande à nos journalistes invités de nous amener de nous apporter quelques infos. Alors, Jérémy Parer, votre scoop ?
Alors moi, ça concerne l'Eurovision, même si c'est pas totalement acté visiblement. C'est donc les commentaires de l'Eurovision.
Voilà. Attention. Ouais.
Les commentaires de l'Eurovision en 2021 sur France 2 devraient être assurés par Laurence Boccolini et Dave, qui ferait son retour du coup à l'exercice.
Mais c'est encore en réflexion. Vous aussi, vous connaissez bien l'Eurovision.
Ça va être quelque chose quand même. Hein. Boccolini plus Jean-Marc Généreux. Bon, moi, je pense que je vais écouter...
Dave, je pense que je vais écouter...
Surtout que quand Dave avait fait avec Marc-Olivier Fogiel sur France 3, ils avaient été justement exclus de la présentation des commentaires l'année d'après, parce qu'ils se moquaient trop des candidats et des candidates. Donc voilà.
Et vous avez la même info, vous aussi
Moi, je n'ai pas d'info concernant l'Eurovision adulte. Ouais. Moi, mon info concerne l'Eurovision junior, puisqu'il y a une édition qui est réservée aux moins de 14 ans, qui aura lieu donc fin novembre, le 29 novembre, en Pologne. Ça sera diffusé sur France 2 en direct le dimanche après-midi.
Si mes informations sont bonnes, ils seront tous en vidéo. Tous les enfants ne se verront pas, en fait.
Voilà.
Ils seront en direct dans un studio de toutes les chaînes de
leur pays, effectivement. Mais il y aura quand même la polonaise qui va interpréter sa chanson en Pologne, les animateurs qui seront en Pologne, et puis il y aura des ponts comme ça. Donc Alexandra Redamiel, qui est la chef de la délégation française, ainsi que la chef des divertissements de France Télévisions. Et elle explique que là, le protocole sera conclu définitif la semaine prochaine pour savoir exactement ce qu'il faudra faire en termes de scènes, de moyens, parce qu'il faut que tout le monde ait les mêmes soit chances et qu'il n'y a pas de personnes avantagées par rapport à d'autres.
Nous, on n'aura pas de danseurs.
L'info qui vient de tomber, c'était à 10h. C'était en exclu sur 20minutes.fr. C'était la révélation de la candidate. Il s'agira de Valentina, qui est une des Kids United. Les téléspectateurs la connaissent aussi, car elle est passée dans The Voice Kids en 2017. Elle n'a pas passé les auditions à l'aveugle, mais ensuite elle s'est très vite rattrapée donc dans Kids United. La chanson, pour l'instant, on ne la connaît pas, devrait être révélée très vite.
Vous êtes en train de nous dire que la représentante de l'Eurovision pour la France, aucun siège s'est retourné sur elle.
Dans The Voice Kids.
Nous avons des membres du jury qui ne se sont pas retournés sur celle qui va nous représenter pour la France.
Mais qui se sont retournés sur d'autres, puisque les deux précédentes candidates, qui sont Angelina en 2018 et Carla l'an dernier, étaient passées par The Voice Kids. On la connaît pas encore, mais on devrait la connaître très bientôt. De ce que Alexandra Redamiel m'a dit, c'est une chanson qui sera très pétillante, porteuse d'espoir, avec un message qui nous permettra. Je parle schématiquement. des lendemains qui chantent.
D'avoir des good vibes.
Donc ça sera des good vibes et ça sera un tableau avec des danseurs, des danseuses très colorés, très festifs, très punchy.
Donc on aura nos chances, c'est sûr.
On a été deuxième l'année dernière.
Ça marche bien, l'Eurovision junior, pour nous.
Deuxième en 2018, cinquième en 2019. Donc là, il n'y a que 13 candidats cette année. Tout est possible.
Il y en avait combien l'année avant Covid ?
Il y en avait 19 et il y a eu 6 retraits parce qu'il y a des candidats comme les Australiens qui veulent. Enfin, c'était retiré parce qu'ils veulent pas faire le déplacement, et puis voilà. Et puis il y a d'autres pays qui ne veulent pas risquer économiquement, investir de l'argent là-dedans. Donc il y a eu quand même 6 retraits.
Gilles, vous avez.
Vous parler de Germinal. Vous l'avez lu, c'est d'Émile Zola.
Je vous remercie.
Donc Germinal arrive en coproduction internationale. Et pourquoi je vous en parle ? Parce que c'est la première production de Salto. Vous savez, Salto, c'est la fameuse plateforme qui veut concurrencer Netflix. Bon courage. Et donc, c'est la plateforme qui regroupe toutes les chaînes TF1, M6 et France Télévisions. Donc, c'est un pari, celle de l'adaptation moderne. Alors, c'est écrit sur le communiqué de presse. Le pari d'une adaptation moderne et audacieuse de l'œuvre monumentale d'Émile Zola. Donc, ça va être en tournage et c'est, ils sont tous très contents de démarrer. Et donc, il y a beaucoup de stars dedans. Louis Pérez, il y a également Alix Poisson, Samy Boujela, Natacha Denninger, Guillaume de Tonquédec. Donc, voilà pour Germinal qui va arriver.
Germinal, oui, donc qui est en tournage. Donc, on va pas le voir très vite.
On pourra pas le voir, ce sera sur Salto. Donc,
non, il y a le retour de 10%, c'est pas vraiment un scoop, mais c'est en tout cas une bonne nouvelle. On l'attend avec beaucoup d'impatience.
Et avec pas mal de stars en plus cette année dans 10% avec Charlotte Gainsbourg.
Ça commence quand, vous savez?
10%,
c'est
alors,
le 17, non, 19, je ne sais plus.
19 octobre. En tout cas, nous, on reçoit, vous savez, l'acteur Montalembert, on va le recevoir. Donc, on le reçoit dans ces eaux-là, donc ça doit être en diffusion dans ces eaux-là.
Voilà, vous avez des conseils pour la semaine prochaine, vous qui êtes au top du top sur les programmes télé.
Ouais, La Flamme sur Canal+, nouvelle série avec Jonathan Cohen, c'est à mourir de rire et qu'il faut absolument regarder si vous avez Canal+. Ouais. Parce que voilà, ça parodie la télé-réalité et le Bachelor, et c'est vraiment très très drôle. Et pour revenir, moi j'adore Le Meilleur Pâtissier, donc je conseillerais à quiconque de regarder Le Meilleur Pâtissier.
Vous avez un chouchou, hein?
C'est bienveillant, ça fait du bien. J'ai pas de chouchou encore, non. Non, moi mon chouchou c'est Mercotte.
C'est vrai?
Vous êtes fan de Mercotte?
Moi j'aime bien le Suisse. Le Suisse qui fait 2 mètres, il est plutôt rigolo.
Ah oui, exact.
Et puis il y a le retour d'Objectif Top Chef qui commence lundi. On aura Christian Etchebest, Philippe Etchebest avec
lundi,
nous lundi. Fabien Randan, vous, votre conseil?
Moi, ça sera également lundi. Ça sera sur France 2. Ça sera les derniers épisodes de la mini-série Le Mensonge sur l'affaire Iacono.
Qui a
très bien fonctionné. 4,7 millions de téléspectateurs pour les 2 premiers épisodes en moyenne lundi dernier. Donc voilà, c'est par rapport à l'histoire, cette histoire de mensonge et de ses conséquences familiales. Mais c'est aussi parce qu'en face de Daniel Auteuil, on verra Victor Meutlé, qui est un acteur qu'on a
formidable.
Vu dans Grand Hôtel, dans Le Bazar de la Charité, dans Emily in Paris, également sur Netflix la semaine dernière, il avait un petit rôle. Et donc là, c'est vraiment l'acteur qui va être à suivre.
Il joue très bien, c'est un très très bon comédien. Ouais.
Tout le monde parle d'Emily in Paris, il va falloir que je regarde, moi.
C'est génial.
C'est vrai, c'est bien, tout le monde dit que c'est... ça critique Paris, que c'est un Paris.
Non,
qui
parce qu'il y a des clichés forcément, mais parce qu'on réagit parce que ça se passe justement à Paris et c'est une ville qu'on connaît, mais enfin le Sex and the City, c'est pas le vrai New York non plus. Oui. Carrie Bradshaw est pigiste et habite 500 mètres carrés, achète des Manolo Blahnik. Donc là, on est à Emeline Paris qui a une chambre de bonne de 40 mètres carrés, mais bon, voilà.
Ça fait du bien.
Ouais.
Je l'ai pas vu, mais c'est.
Et Philippine Laura Beaulieu est juste excellente, qu'on a vu dans 10% aussi.
Mais je trouve qu'elle tourne pas assez, Philippine Laura Beaulieu. C'est le 21 octobre, me dit notre réalisateur Pierre-Yves, le retour de 10% qu'on attend effectivement avec impatience. La une de Télé 7 jours, c'est...
Oh, moi, mon avis, vous en foutez.
Ah oui, pardon, excusez-moi, Gilles.
Mais c'est pas grave, en plus, ça va pas vous intéresser.
Non, c'est la finale de Voice Kids.
Je me doutais que c'était à cause de ça. Non, mais alors, ils ont fait des efforts hein, quand même à TF1 pour essayer d'essayer d'avoir une forte audience pour la finale. Donc, samedi, c'est la finale de The Voice Kids. On va connaître enfin qui va être le gagnant. Et donc, cette année, ils ont beaucoup de guests. Ils ont Julien Doré, ils ont Maître Gims, enfin on dit Gims, ils ont Dadju, vous connaissez Dadju, Valérie?
Oui, bien sûr.
Ah bon, c'est le frère de qui?
Gims. Voilà.
Et Louane, et donc des invités prestigieux qui vont chanter en direct. Et puis il y aura même Florent Pagny qui va revenir. À noter que l'année prochaine, il y aura 2 saisons, vous savez, de The Voice, saison anniversaire et une saison normale. Et donc là, vous pourrez voter, vous au téléphone, vous allez pouvoir voter. Et attention, comme pour les grands, la nouvelle règle, c'est que vous pouvez voter pour n'importe quel enfant. Ils ne sont pas présentés par membre du jury. Donc, vous pouvez voter pour tous les enfants.
Super.
Et Julien Doré aura droit à son fauteuil. Il sera sur place, sur le coach.
C'est vrai.
Julien Doré qui a très bien fonctionné,
oui,
vous nous le disiez,
en couvre
de Télé 7 jours.
Merci,
alors,
Julien,
vous avez essayé de me souffler. En fait, avec les masques, on ne va plus pouvoir souffler maintenant.
Oui, souffler la réponse sur Gims.
Voilà. La une de Télé 7 jours.
Camille Combal lundi pour le retour de Massinger.
Ouais, absolument, avec Massinger dont les noms ont déjà un petit peu fuité.
Je ne regarde pas, moi, les noms.
Non, vous ne regardez pas, vous voulez garder la surprise.
Non, parce que justement, c'est une des émissions, je trouve, qui redonne redonne à Twitter de jolies couleurs, tout le monde joue, ouais. Tout le monde se pose des questions, la mécanique est super, je trouve, et donc ce serait dommage de gâcher ce plaisir-là.
Fabien, vous aimez bien aussi ?
Ah, moi, je suis assez client de Mask Singer, voilà, c'est vraiment, je me prends au jeu, moi.
Bon. Bah, moi aussi, je suis en train de regarder les vieux comédiens des années 80-85.
Oh, il est toujours perdu.
Non, mais c'est vrai, je regarde, j'étais voir les anciens chanteurs pour essayer de trouver.
Vous êtes mauvais. Et vous, vos prochains papiers retrouvés dans 20 minutes, des interviews exclusives.
La semaine prochaine, je parlerai de la série française qui arrive sur Netflix, La Révolution, qui sera une série historique, mais surtout fantastique, puisqu'il y a une histoire de zombies. Oui. Donc c'est vraiment une réécriture de l'histoire.
C'est bien ou pas ?
C'est intéressant pour la partie artistique. Non, mais voilà. Je trouve qu'il y a un très bon potentiel. J'ai l'impression qu'il sera davantage développé en saison 2, mais je pense que c'est une série qui va justement avoir son succès à l'international, notamment parce que La Révolution, ça parle hors des frontières.
Mais c'est vrai que l'idée de le rendre un petit peu fantastique laisse dubitatif, mais pourquoi pas.
Voilà, mais c'est... faut regarder.
Voilà. Et la réponse, alors, Gilles, ça a progressé ou pas ?
Un petit peu. Il est un petit peu convaincu, Jérémy. On est passé à 13% de oui. Et 87% de non.
C'est une consultation, c'est pas un sondage.
Qu'est-ce que vous avez dit ? Twitter n'est pas la France, non ?
Mais bien sûr, forcément, les tweetos, je pense que les tweetos n'achètent plus beaucoup de presse-papier, de toute façon. Ils sont plus jeunes, c'est normal.
Mais on pourra refaire un sujet là-dessus, justement, sur comment la presse télé s'est réinventée et propose des choses un petit peu différentes. La preuve, la couverture avec Julien Doré. Merci à tous les deux, Jérémy Parère, donc directeur de la rédaction de Télé 7 jours, et Fabien Randan, journaliste culture média à 20 minutes. Merci Gilles, on se retrouve dans un instant avec Gérard Collard pour parler livres.